lors de la demi-finale aller. Vous êtes à l'écoute de RFI, les midi passé de 10 minutes ici à Paris. Restez à l'écoute de la Radio du Monde.
Cette année 2024, deux associations du quartier Chartres-Nord renouvellent leur agrément auprès de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Il s'agit du Centre social Bordeaux-Nord et de la Ludothèque Espace de vie sociale Interlude. Ce diagnostic, ce travail d'agrément, il passe par un travail de diagnostic sur le territoire, c'est-à-dire dans le quartier, auprès de ses habitants et habitantes, acteurs et actrices. Notre discussion d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans ce diagnostic, puisqu'on a autour de la table plein de professionnels du quartier avec qui on va réfléchir, analyser ce qu'il s'y passe autour principalement de deux thématiques, la culture, ou les cultures d'ailleurs, et les solidarités, ou la solidarité. Pour commencer, bonjour Fabrice Escorn.
Bonjour.
Tu es directeur du Centre social Bordeaux-Nord, et bonjour Nicolas Sorna.
Bonjour.
Toi, tu es directeur de l'association Interlude, dans laquelle on se trouve d'ailleurs pour enregistrer cette discussion. Interlude présente dans le quartier à travers l'espace de vie sociale Chantelude. On accueille donc pour cette discussion d'abord Johan Lavabre. Bonjour Johan.
Bonjour.
Tu es directeur du Globe Théâtre qui est installé depuis plus de 20 ans, je crois, maintenant, rue Joséphine, et qui est un lieu à la fois de représentation théâtrale, aussi de création avec des résidences et de médiation avec des scolaires, on peut dire ça ?
Oui.
À côté de toi, Charlotte Coudert. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Du collectif Bordeaux Nord, collectif de ressources culturelles. Comment tu le définis en deux mots, ce collectif ?
Eh bien, collectif de ressources culturelles. Bon, ça fait trois mots, c'est vrai. Mais ressources culturelles au pluriel. Voilà.
Donc, vous deux allez nous parler plus spécifiquement de la culture, même si on voit déjà qu'il y a plein de ponts à faire avec la question de la solidarité. Et puis, Elisabeth Angèle. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour à vous tous et à vous toutes.
Et vous, vous faites partie de la Maison d'Elisabeth. Cette question de la politique de la ville, où donc il y a un nouveau zonage, où si je ne me trompe pas, le quartier Chartres-Nord-Saint-Louis était en veille de QPV jusqu'à il y a peu, il en est sorti. La disparition de ce zonage-là et donc l'accompagnement de l'État qui va avec, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que vous le sentez ou vous pensez que ça va avoir des effets dans les mois et les années à venir ? Charlotte Bordeaux-Nord, je te laisse réagir.
Oui, ça va avoir des effets et je crains que ça soit des effets domino. C'est-à-dire que c'est d'abord l'État, du coup la préfecture, mais ça va forcément influencer les autres partenaires institutionnels, que ce soit la ville, le département, mais aussi, je pense, la région avec le temps. Oui, ça a des conséquences en termes d'activités réalisées, des conséquences en termes de ressources humaines disponibles sur le quartier pour faire un travail social, culturel, d'insertion ou d'autres pans par rapport à l'alimentation, par rapport au logement. Enfin, c'est tout un tas de domaines de la vie des habitants qui vont être touchés.
Une réaction, Fabrice, Centre Social Bordeaux.
Oui, sur la politique de la ville, moi je veux bien en dire quelque chose. Ouais, ce qui est un peu compliqué, c'est encore une fois par rapport à cette histoire de visible, pas visible. Quand on parlait de la population qui change ou qui grossit ou qui arrive et qui change le curseur, qui place le curseur, la médiane, un peu plus haut en termes de revenus, catégories socio-professionnelles, etc. Ça reste des chiffres et ça dit pas forcément grand chose sur qui sont les gens qui vivent ici. Et la politique de la ville, en tout cas la sortie de la politique de la ville, pour notre quartier, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va braquer les projecteurs ailleurs, bon, ce qui est bien pour l'ailleurs, hein, en l'occurrence, d'autres quartiers qui sont dans le dur aussi. Et donc on ne va plus regarder forcément ce qui se passe ici, en tout cas sous le filtre de la politique de la ville et ses quartiers, le département et ses quartiers. Et pour nous, c'est dommageable Alors oui, en termes de finances, des projets qu'on voudrait mettre en œuvre pour recréer ou pour dynamiser le vivre ensemble dans le quartier, on va avoir plus de mal à trouver de quoi faire vivre ces projets. Donc oui, la conséquence pour nous, elle est là. Après, moi, je commence à avoir un petit peu de bouteille dans le métier, dans le travail dans les quartiers. J'essaye de me raisonner en disant que il y a toujours quelque chose qui est sorti à la place. C'est-à-dire que si c'est pas l'argent de la politique de la ville et de l'État, il y a des choses qui vont se déclencher par ailleurs. Parce que, ça c'est mon côté positif, parce que c'est pas possible de laisser des quartiers, des pans de population entiers dans cet état-là. Et je pense que certaines personnes, y compris dans les rouages de l'État ou des départements ou des villes, en sont conscients. Et donc nous ramène toujours à des dispositifs, des projets. Après, c'est un peu crevant pour nous parce qu'il faut aller être à la traque de tous ces moyens-là de financer. Mais on a un peu l'habitude de pratiquer ce sport. Donc voilà, je positive en me disant oui, bon, mais ça va s'arrêter, mais il y aura autre chose. Et puis s'il n'y a pas autre chose, les citoyens vont réagir et vont créer des choses différentes.
Peut-être sur cette question-là, une réaction à Elisabeth Angèle, à la maison Elisabeth. Est-ce que vous, tout à l'heure, vous parliez de l'augmentation de la population de pauvreté. J'imagine que c'est aussi une mauvaise nouvelle. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous bénéficiez de ce zonage-là, de la politique de la ville. Mais voilà, face à cette augmentation de la population de pauvreté, comment vous faites? Est-ce que ça veut dire que vous devez refuser des personnes qui viennent de plus en plus nombreuses toquer à la porte? Et voilà, comment vous gérez cette situation, Elisabeth?
Alors, tout à fait. On est obligé des fois de refuser. Alors de refuser de les prendre, de les faire entrer, de les mettre à table parce qu'on n'a plus assez de place. Mais je prévois toujours quelque chose parce que je n'aime pas dire à quelqu'un qui a faim, non, je ne peux pas te donner même pas un sandwich. Donc on leur fait des sandwichs, de même que le matin on arrive à servir les petits déjeuners sur le trottoir. Et c'est là que je vous dis que nos voisins sont extraordinaires parce qu'il n'y en a aucun qui est venu taper à la porte en me disant « Madame, c'est pas correct ou ça nous gêne » ou comme ça. Voilà. Au contraire, ils sont là à nous dire « Mais comment vous faites ?» Voilà. Donc à chaque fois qu'on est obligé de dire à midi à quelqu'un « Non, on est complet », mamie lui dit « Tu vois, il y a le petit banc là-bas à côté de l'église, tu vas t'asseoir, je te prépare quelque chose. » Et là, je lui porte sur un plateau. Si on a des restes de ce qu'on a fait à midi, je lui porte. Sinon, je fais des sandwichs bien comme il faut pour leur donner. Mais c'est vrai qu'on est obligé. Et je pense que malheureusement, je dis bien malheureusement, je ne suis pas la seule association qui soit obligée de faire ça. Parce que nous faisons aussi les colis alimentaires. Et nous arrivons à manquer de denrées alimentaires. Vous voyez, je fais des conférences dans les lycées, dans des entreprises. Et avant, on me faisait un petit chèque. Bon, ça allait à l'association, la maison d'Elisabeth. Maintenant, vous savez ce que je demande? Des denrées alimentaires, des pâtes, du riz, des boîtes de conserve. Et une fois que je sors de ma conférence, je reviens les mains chargées à la maison d'Elisabeth de denrées alimentaires, parce qu'il nous manque tout ça.
Et alors, vous êtes la seule représentant un peu ces assos, ces structures qui travaillent dans la solidarité ce matin, mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu seule et isolée à faire ça dans le quartier, ou bien il y a d'autres endroits aussi où ça fonctionne et où ça permet d'aider, de soulager un petit peu les difficultés de certaines personnes au moins?
Oui, je pense qu'on est même nombreux comme association à essayer de faire ça. Mais quand vous manquez de quelque chose, vous avez quelqu'un qui vient sonner chez vous et vous lui dites « Non, je ne peux pas parce que j'ai mes étagères qui sont vides à la réserve », c'est angoissant. Moi, je vous dis que c'est angoissant. Et aujourd'hui, je pense que toutes les associations, nous sommes angoissés par ça, par la population qui nous arrive, le manque de moyens qu'on a. Et c'est vrai que les subventions n'arrivent plus à être à la hauteur, je le dis franchement, et pour tout le monde.
Il y a une association qui est de Bacalan, mais qui fait aussi de l'aide alimentaire, Gargantua, qui nous disait il n'y a pas très longtemps qu'ils avaient vu un changement post-Covid, où à partir du Covid, les collectivités locales en fait sont un peu délesté cette gestion-là de l'urgence alimentaire aux associations de plus en plus, et que depuis, ça, il n'y a pas eu de retour en arrière, quoi. Et donc il y a davantage de choses qui relèvent de ce que peuvent apporter les assos de ce type-là. Est-ce que vous ressentez aussi cette évolution-là dans le temps?
Ah oui, tout à fait. tout à fait. Aujourd'hui, une association, vous savez, elle a le problème de la nourriture, mais elle a le problème aussi de suivre la personne quand elle la prend, même sur le milieu médical, même sur les papiers, vous voyez, parce qu'il manque effectivement de personnel, je pense, dans certains bureaux. Donc on est obligé de faire tout ça à la fois, et c'est énorme, et c'est énorme.
Lequel de vous deux, Fabrice, une réaction là-dessus ?
Juste sur ce sujet, ouais, pour rester sur ce sujet, ouais, ça me fait réagir très fortement parce que autant tout à l'heure je voulais positiver, autant j'ai aussi un coup de gueule à partager avec Elisabeth, je crois. C'est vrai que on constate la fermeture d'un tout un tas de guichets du droit commun, c'est-à-dire que nos structures, alors associatives avec beaucoup de bénévoles ou associatives professionnelles, parce que nous on a certes des salariés, on se retrouve à modifier notre objet de travail, quoi. Ce pourquoi on est là au départ, des projets qui rassemblent les personnes et qui font, qui contribuent au vivre ensemble, aujourd'hui sont impactés par le fait qu'on doit accompagner tout simplement les gens à préserver leurs droits, à accéder à leurs droits, là où ils ne peuvent pas y accéder au guichet. Alors je vais citer, hein, de la CAF, de la CARSAT, de Pôle emploi c'est compliqué, enfin de tout un tas d'institutions comme ça, où on ne les reçoit plus pour leur permettre de remplir un dossier, d'accéder à leur numéro, enfin à leur dossier via le numérique. On a, comme pour l'aide alimentaire, dévoyé ça aux associations. Et il n'est pas rare qu'on nous renvoie des personnes de la part des institutions pour dire bah, allez vers ces acteurs-là qui vont vous aider. Ce sont des acteurs de quartier au plus près de chez vous, ils vont vous aider. Mais au départ, on n'est pas là pour ça. Et surtout, en lien avec la politique de la ville, on n'est pas financé pour ça. Donc, on fait ça au petit bonheur la chance avec toute la bonne volonté qu'on a, mais c'est pas ça qu'on est censé faire au départ, quoi. Ben voilà, c'était le coup de gueule par rapport à ces actions de solidarité. De l'aide alimentaire, on en fait aussi, on s'y est mis il y a quelques années parce qu'on a constaté la misère dans laquelle pouvaient se retrouver les familles qui étaient adhérentes chez nous, quoi. Voilà, je passe la parole.
Charlotte, tu voulais réagir tout à l'heure. On revient au sujet un peu précédent. Charlotte Coudert, Bordonnard.
Oui, parce que alors là, je suis... c'est sûr que c'est... Je voulais parler du sujet dont on parlait tout à l'heure entre Johan et Nicolas, qui était plutôt sur l'aspect culturel, mais ce que viennent de dire Elisabeth et Fabrice, c'est quand même... on le constate. C'est-à-dire que cette manière de faire réduit la liberté d'action, la liberté d'entreprendre, d'initiative des associations, de devoir pallier à des carences par rapport aux services publics, réduit la liberté d'initiative des associations et leur capacité aussi à réagir à ce qui se passe en lien avec la société autour d'elles. C'est-à-dire que maintenant, on répond à des appels à projets, à des demandes des politiques publiques, mais qui, sur des politiques qu'elles définissent. Et du coup, on a plus de mal à être force de proposition, force d'initiative, de fait. Et du coup, à avoir une capacité d'agir à côté des services publics sur d'autres pans qui ne sont pas, qu'ils n'identifient pas. Bon, je reviens à un autre sujet. Alors, ça rejoint ce que disait à un moment donné Nicolas par rapport à l'expertise, par rapport à la culture. On a parlé des activités qui existent, des projets où participent des habitants. Et il y a aussi... une autre partie qui concerne plutôt bah, du coup les initiatives des habitants. On a l'exemple dans les quartiers aux alentours, à Grand Parc par exemple, à Bacalan, ou aussi ça peut être au Lac, d'habitants qui ont des passions, parfois depuis fort longtemps, et qui prennent l'initiative, veulent faire des choses, parfois dans l'espace public, parfois sur scène. Et donc, du coup, comment on est ouvert et en capacité d'accompagner quand ils nous demandent des conseils, de l'aide, faire des rencontres, parfois avec d'autres professionnels, pour s'améliorer, pour explorer des pistes. Il y a des habitants qui portent des initiatives, parfois pour faire une fête ou une braderie, ça peut être pour monter une pièce de théâtre. Il faut que ce qui est agréable au collectif Bordeaux Nord, je ne dis pas ça parce que j'y travaille, mais c'était une des raisons pour lesquelles j'y suis venue, c'est parce qu'il y a de l'espace et du temps pour être accessible, joignable, rencontrer les personnes, les habitants qui portent des initiatives, quel que soit leur âge, quelle que soit la discipline, quelle que soit l'envie, que ce soit autour de l'écriture, de l'illustration. Parfois, il y en a qui veulent exposer, parfois, il y en a qui veulent monter une pièce, parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont des choses à raconter, ils ont des histoires qu'ils veulent partager. Et donc, c'est d'être ouvert à ces personnes-là. Du coup, par rapport à la culture, quand on parle d'experts, oui, il y a des personnes dont le métier est de très bien connaître des disciplines, de connaître l'histoire de ces disciplines, les pratiques, les techniques, toutes les les influences. Les habitants sont experts de leur territoire, Fabrice a dit à un moment, mais ils sont experts aussi de leur propre imaginaire, de leur propre rapport au monde, de la manière dont ils se le représentent, dans la manière dont ils veulent le partager aux autres et entrer en relation avec les autres. Donc je pense que c'est aussi une partie dans la culture, être ouvert, accessible, joignable, être des ressources. En tout cas, pour le collectif, c'est ça, être une ressource accessible. Et j'en viens à une autre accessibilité, où on parle beaucoup d'accessibilité financière, finalement, aux spectacles, aux salles, etc. Mais un des problèmes, un autre pan, moi, je constate, d'accessibilité, c'est par rapport au temps. C'est-à-dire que oui, il y a des conditions financières, l'accessibilité financière à des spectacles, à des lieux, des musées, etc. Bon, des choses sont faites. Nous-mêmes, on a une billetterie pour l'ensemble des adhérents aux associations, etc., du quartier, des quatre quartiers. Mais le problème, maintenant, est beaucoup sur le temps dont disposent les personnes et dont nous-mêmes on dispose. Fabrice en a parlé. On est dans une course et en plus sur une course et sur un éclatement de beaucoup de centres, de beaucoup de choses en fait sur les différents aspects de la vie. Je suis pas sûre que si on est dans une urgence climatique, notre environnement qui tend à s'effondrer ou à s'éteindre, notre rapport au temps aussi est quelque chose d'assez stressant, je trouve, et humainement, je suis pas sûre que ça soit très compatible avec l'humain, ce temps qui est très morcelé et l'accélération qu'on vit. Donc, je ne sais pas comment faciliter l'accès à la culture, mais d'un point de vue du temps dont les gens disposent.
Vaste question, merci de la poser. T'as évoqué aussi l'aspect de l'éclatement géographique aussi dans le quartier. C'est une question qui est revenue quand on préparait cette émission avec Fabrice et Nicolas, qu'il n'y ait pas de lieu central de convivialité où les gens se retrouvent dans ce quartier. Nicolas, t'en as parlé sur la difficulté aussi à nommer le quartier. Moi tout à l'heure j'ai dit Chartron Nord. Bon voilà, chacun a un peu son mot et on ne sait pas trop quelles en sont les frontières précises. Est-ce que ça, c'est
c'est quelque chose que vous ressentez, vous, dans vos diverses activités et qui manque pour faire du lien, justement, pour... On parlait tout à l'heure de la question de la communication. On s'attendait à ce que cette question-là du lieu, elle ressorte peut-être assez vite dans la discussion de la convivialité et donc de ce qui fait lien dans le quartier. Est-ce que finalement c'est une question si importante que ça, ou est-ce que Elisabeth, il y a la place Saint-Martial qui fait office, j'ai l'impression, de lieu de rencontre aussi. Il y a rue Joséphine, le Globe, le Centre Social aussi qui permet d'avoir ça. Est-ce que c'est tant que ça, une question. Fabrice.
Ouais, je veux bien dire un mot. Moi, je me le suis noté dans mon petit cahier et entouré, là, comme quelque chose qui devait être évoqué ce matin. Et notamment, depuis le début, tu as posé cette question de qu'est-ce qui se disait il y a 4 ans en Diag et qu'est-ce qui vous paraît ressurgir aujourd'hui. Cette question-là, effectivement, elle est assez évoquée. Il y a 4 ans, les gens disaient il n'y a plus de lieu pour se réunir, partager du temps, faire des choses ensemble. Voilà, ils ne le disent pas plus précisément que ça. On pourrait leur répondre, si, il y a le centre social. Il y a le café du coin. Bon, il n'y en a pas. Mais le centre social, on va répondre des lieux repérés. Mais les gens disent non, mais pas forcément ça. Des lieux où on peut partager dans l'espace public, où on peut se retrouver sur la place du village. Mais la place Saint-Martial, peut-être, est la meilleure illustration de ça. Mais quand même, ils évoquent toujours ce manque. Peut-être lié au manque de temps aussi. Peut-être qu'ils nomment des lieux pour dire aussi qu'ils n'ont pas le temps de se retrouver, comme le disait Charlotte. Mais je pense que c'est assez symptomatique de la nostalgie ou de ce que les gens aimeraient retrouver, c'est-à-dire une vie de quartier. Et aujourd'hui le Diag n'est pas rendu, enfin pas définitif, mais on voit plein de choses qui ont poussé, en effet, avec les lieux nouveaux d'habitation, il y a des lieux de consommation au pied de ces immeubles, beaucoup de lieux de libation, comme on dirait, où les gens vont aller boire un coup et puis ressortir en marchant pas très droit, mais c'est pas des lieux de convivialité en vrai, c'est pas des lieux où les gens prennent le temps de taper le carton, de se raconter ce qu'ils ont fait dans la semaine, ou avec les petits-enfants, ou que sais-je.
Et pas forcément des lieux de rencontre où on rencontre des personnes qu'on fréquenterait pas sinon.
Exactement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui commence à nous animer, quoi. Se dire, tiens, comment réinventer des endroits ou des lieux où on pourrait trouver ça. Donc, dernièrement, il y a un sujet qui est apparu et on le partageait avec le Globe, on le partage avec l'école du Paty, on le partagera sans doute avec la théâtrerie dans la rue Joséphine. Il y a un projet de piétonnisation de cette rue et de pouvoir fermer la rue à la circulation et de pouvoir recréer un espace où les habitants peuvent investir ce temps, partager ce temps. Au détour des enfants qui vont récupérer à l'école, mais au détour de la programmation chez Johan, d'un spectacle en avant-première ou autour du bar du Globe, peut-être que ça peut déborder sur la rue, au détour d'un atelier cuisine ou d'une opération générée par la MIAM du centre social, et puis on inviterait Interlude avec ses jeux. Il y a plein de choses à imaginer sur des espaces comme ça, à investir plutôt en espace public où on va ritualiser des temps de rencontre et où les gens vont pouvoir se poser pour un peu se parler de ce qu'ils font, de qui ils sont, quoi.
Elisabeth, vous qui êtes plutôt du côté de la place Saint-Martial, est-ce que cette place, elle est vivante? Est-ce qu'elle est un lieu, un peu comme l'a défini Fabrice, qui pourrait remplir ces besoins-là, en tout cas, ou vous partagez ces constats?
Alors, la place Saint-Martial, depuis qu'elle a été aménagée, c'est vrai qu'elle est devenue très conviviale. Voilà, moi je dirais, c'est un bonheur de voir les enfants monter sur le toboggan, crier le soir, le matin, pendant les vacances. Et les parents se retrouvent là. Et moi-même, l'autre jour, je traversais la place Saint-Martial, il y avait une maman avec ses enfants, et je me suis arrêtée, nous avons discuté. Et les parents arrivent à discuter entre eux, à tout ça. Et notre petite place est devenue une place conviviale, et on l'aime bien. Voilà.
Nicolas Sarna, sur cette question-là du lieu de convivialité dans le quartier.
Oui, pour compléter ce que dit Elisabeth et Fabrice, c'est vrai que depuis plusieurs années, cette question de l'espace public, d'avoir des lieux de vie, des lieux qui font rencontre, il y en a très peu. Il y a des squares, des parcs qui existent, mais qui finalement ne sont pas si fréquentés que ça, pour différentes problématiques. Il y a des projets qui ont été envisagés, on est revenu dessus, donc c'était aussi compliqué de construire des choses sur la durée. Nous, on va aussi, on essaie en tout cas, nous, sur Interlude, depuis plusieurs années, c'est un point fort de notre projet, du coup, c'est d'être hors les murs. Alors, aussi parce que nous, là, on est au sein de la résidence Chantecry, qui n'est pas forcément un lieu très accessible, parce que forcément, qui a un lieu un peu sécurisé, voilà, mais qui a d'autres atouts, parce qu'il y a l'intergénérationnel et le lien avec les seniors qui est exceptionnel. Mais du coup, c'est un peu freinant, peut-être aussi pour les familles, d'y venir en appuyant sur un digicode. Voilà. Donc en fait, du coup, ça nous a amené aussi à sortir des murs depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'on voit bien que lorsqu'on est à l'extérieur, où les gens peuvent viennent assez facilement, en plus le jeu est un outil formidable à ce niveau-là pour faire du lien et passer un moment de vie culturelle ensemble, très intéressant. Et il y a des lieux comme ça, il n'y en a pas tant que ça, en fait, pour aller dans cet espace public, dans ce quartier. Il y a un projet, on va réinterroger, on en parlait lorsqu'on était sur une réunion il y a peu de temps avec Fabrice, avec nos élus. Voilà, il y a un projet depuis plusieurs années de réhabiliter sur la rue, c'est près de la rue Bourbon, je crois, si je n'ai pas de bêtises, avec les Halles de Bourbon, qui est une association qui avait œuvré là-dessus. Il y a 4-5 ans, en fait, il y avait ce projet de réhabilitation, alors qui avance a priori, je crois qu'il y a un sujet de dépollution du terrain, c'est en cours.
Ils ont commencé les démolitions début mars, là. Ils ont posé des nouveaux panneaux d'information, justement. Et normalement, je crois que c'est début 2026 que le nouveau jardin devrait voir le jour, de ce que j'ai compris.
Voilà,
mais il y a un panneau d'information, voilà. Et la démolition, ils ont commencé, nous on les entend. Ça fait trembler nos murs. Tous les jours quasiment. Mais
donc c'est en route.
Donc ça c'est en route, et c'est très bien. Et du coup, ça bah, pour nous acteurs, ça peut être justement aussi un terrain à explorer pour y faire des choses avec les habitants aussi, les associations. Mais quand on parlait de temps et de temps long, bah, en effet, ça c'est un sujet qu'on a évoqué il y a 5-6 ans. Voilà, là, 2026. Donc voilà, donc c'est quand même une réalité en effet temporelle qui est importante, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle si en effet ce projet va arriver, et ça peut en effet permettre d'avoir aussi un poumon vert un peu dans ce quartier, qui est, on a aussi constaté qu'un quartier où il y a beaucoup de passages, il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui y passent, qui le traversent, mais s'y arrêter, ils vivent des moments partagés, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle en effet en 2026, c'est pas encore tout de suite mais ça arrive. Mais voilà, cette question de l'espace public, de lieu de vie, donc de rue piétonnière, de se regrouper, de partager, d'avoir une histoire commune dans un quartier qui évolue. C'est important de retrouver cette histoire, justement, construire une histoire ensemble. Un quartier, c'est aussi ça, c'est on construit une histoire ensemble. Et là, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui en fait découvrent ce quartier-là. Ils auraient pu être ailleurs, ils sont ici. Mais comment on fait histoire commune et humanité ensemble ? Voilà, ça va être l'enjeu de nous tous, autour de la table, et des habitants anciens et nouveaux, quoi.
Léa de la Clézone, qui fait la technique depuis tout à l'heure, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais parler aussi en tant qu'habitante, ancienne habitante, parce que je suis née rue Joséphine et que j'ai un peu de nostalgie à vous entendre parler aussi de tous ces lieux. Et je me suis rappelée de quelque chose qui m'avait marquée quand j'étais petite, c'était... Il y avait le centre social, il y avait aussi la place Saint-Martial, qui était aussi un endroit effectivement où on se retrouvait avec les parents, les enfants, etc. Mais il y avait aussi les commerçants qui habitaient le quartier et qui faisaient vivre en fait énormément ces lieux de convivialité, où c'était la boulangerie, il y avait le théâtre en miettes aussi, en parlant de théâtre, il y avait le tabac, et en fait c'était des gens qui habitaient dans le quartier et qui permettaient que ces lieux-là ils prennent vie. Et que on s'arrête dans la rue et qu'on fasse passer les informations de, je sais pas, la maison d'Elisabeth va ouvrir pour faire un repas, ou le Globe joue ce... Voilà, c'était des... Comment en fait on recrée des lieux de convivialité avec tout un ensemble d'acteurs qui soient pas juste des associations aussi, et qu'il y ait une responsabilité de toutes et toutes. Et je trouvais ça très intéressant de se dire que culture et solidarité se retrouvent en fait dans ces lieux-là, et que c'est là où en fait il y a un vrai échange, une vraie lieu social. Voilà.
Qui veut réagir à ça, et puis on va arriver au bout, je crois, de la discussion. Johan, Charlotte.
Eh bien, par rapport à ce que tu viens de dire, moi je vais sur le mois d'avril et de mai beaucoup aller dans ce sens-là, solliciter les personnes, mais c'est-à-dire les commerçants, les habitants, les associations, les écoles, tous les acteurs. Quand tu dis toutes et tous, en fait c'est toutes les structures, mais aussi les personnes, parce que je vais commencer à diffuser l'invitation de l'été en or 2024, qui invite les gens à créer et participer à l'été en or en fabriquant à partir de ce qu'ils savent faire sur le thème du vivant, qui sera le thème de l'été en or. Et en fait, l'été en or cette année est le sujet est d'exposer. Alors sur table, sur fil, sur étendage, sur dans l'espace, de présenter en fait toutes les créations que peuvent réaliser les habitants, les structures, les collègues, les enfants, les instits, les artistes dans l'espace public. Donc c'est les 5 et 6 juillet. Et donc là, je vais commencer à diffuser les informations en allant voir toutes ces personnes qui font la vie de quartier, en passant par les commerces, etc. Ceux qui sont peut-être le moins investis, d'après mon expérience de diffusion et de communication sur les fêtes de quartier, ce sont les grandes surfaces. Voilà. Les grandes surfaces, comment dire, les hypermarchés, refusent. Par exemple, l'affichage d'informations sur les fêtes de quartier. Parfois, on peut avoir accès à la salle de pause des caissières. Ça nous permet de donner un petit peu d'informations, mais voilà, diffuser l'information là où quand même les personnes vont pour faire leurs courses, c'est quand même des espaces. Alors oui, ils sont là pour faire leurs courses, acheter, mais on pourrait quand même en profiter si on faire la pub sur les caisses, faire la pub sur les vitrines. Mais voilà, c'est des lieux auxquels on n'a pas accès pour parler de la vie du quartier, alors que beaucoup de gens les fréquentent. Bon, là, c'est mon coup de gueule d'aujourd'hui, parce que je vais me taper ça au mois d'avril ou au mois de mai. Des portes fermées et des gens, parfois, qui ne sont pas très coopérants. Voilà. Ça ferait du bien qu'il le soit un petit peu quand même.
Je vais reposer la même question peut-être d'une autre manière. Est-ce que le fait, comme on disait, de ce manque de clarté de ce qu'est le quartier, manque d'identité forte, de manque de centralité aussi dans le quartier, est un frein à l'implication des uns, des unes, des autres, ou à la création d'initiatives, au renforcement des initiatives existantes ? Johan, là-bas, je te laisse réagir aussi, dire ce que tu voulais dire au départ.
Oui, non, je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un petit côté paradoxal dans un théâtre, parce qu'on est un lieu de spectacle vivant. Néanmoins, même si c'est un lieu qui vit à l'intérieur un petit peu tout le temps, hein, quand il y a les répétitions, les résidences d'artistes, c'est malheureusement un lieu qui a des plages d'ouverture assez restreintes, quoi, hein. Une heure avant le spectacle, une heure après le spectacle, et on se pose cette question, comment faire du théâtre un lieu de vie au sein du quartier. Et malheureusement, la première contrainte à laquelle on se heurte, c'est les moyens humains au sein de l'équipe. C'est-à-dire que et c'est vrai que le hall du théâtre pourrait être un espace qui reste ouvert, qui accueille des gens pour boire un café, pour lire un bouquin, pour discuter. C'est cette sorte de piétonnisation, hein, dont tu parlais, effectivement, on en a reparlé avec la mairie, on espère que ça viendra, voilà. Mais on n'a pas les moyens. Alors, on trouve quand même, par exemple, on va accueillir à partir, normalement, hein, de janvier 25, un point lecture des bibliothèques de la ville de Bordeaux, donc dans le hall du Globe Théâtre. Mais voilà,
ça veut dire quoi, un point lecture?
Alors, c'est en fait une petite bibliothèque décentralisée, on va dire, où les gens peuvent lire et emprunter également les livres. Donc on accueillera une bibliothèque d'à peu près 1500 ouvrages, des BD, des mangas, des romans, un petit rayon théâtre aussi. Voilà, c'est important pour nous de créer de la porosité, c'est-à-dire que voilà, ce sera une occasion pour que des gens rentrent, franchissent la porte pour autre chose finalement que d'aller voir une pièce de théâtre, et puis se rendre compte que c'est pas un temple inaccessible, le théâtre. Mais ça fait quoi, ça va rajouter une heure et demie, deux heures d'ouverture hebdomadaire pour les habitants du quartier. C'est pas assez, on aimerait être ouvert toute la journée.
J'ai une question par rapport à ce nouvel espace lecture. Est-ce qu'il va y avoir une personne, même ne serait-ce que quelques heures par semaine, qui va animer ce lieu, accueillir les gens qui vont utiliser la bibliothèque.
Ah oui, ce ne sera pas en self-service, oui. Donc il y aura forcément une personne de l'équipe du Globe Théâtre qui, sur ses plages d'ouverture, sera là pour accueillir les gens, les orienter. On organisera aussi des séances de lecture à voix haute, notamment avec la Ligue de l'Enseignement, Lire et Faire Lire. Et puis on espère pouvoir le développer, quoi.
Merci.
Fabrice Escorn.
Oui, je voudrais revenir sur l'intramuros, en fait, la question de dans le quartier. C'est quoi la vie dans le quartier? Au moment où on avait constaté que le quartier s'était un peu appauvri au niveau de sa vie intramuros, quelqu'un de la mairie de quartier avait répondu, mais il y a tout. Enfin, les gens, de quoi se plaint-on? Il y a tout autour. Vous voyez bien, avec tout ce qui arrive, il y a des cafés, il y a les quais, c'est super les quais, il y a plein de magasins, etc. Mais en fait, c'est pas la question, enfin, c'est pas ce genre de lieu dont les gens ont envie. Hein. Ça me fait penser à... Je suis pas un grand voyageur, mais je pense qu'on a tous traîné un peu en Espagne le soir à certaines heures, et ça me fait penser un peu à cette ambiance-là que je crois avait le quartier il y a quelques années. Léa pourra peut-être en témoigner, mais vous savez, l'histoire du centre social, Bordeaux-Nord, elle part de là. Elle part de la communauté espagnole dans le quartier, qui s'est regroupée autour d'une machine à laver, parce qu'il y avait un souci très concret de comment on pouvait laver son linge, et comment on pouvait se moderniser un peu et aller un peu plus vite pour laver le linge. Et les gens de cette communauté ont acheté en commun une machine à laver, mais il fallait un lieu pour la poser, etc. etc. Je ne vous fais pas toute l'histoire. Mais de là est venu les devoirs des enfants, des lieux où on se retrouve pour partager un repas éventuellement, faire la fête. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et le centre social Bordeaux-Nord est né de ça, de cette histoire-là. Et ce qu'on est en train de se raconter là, ça me fait penser à ça. Comment revivre à l'espagnol dans le quartier Bordeaux-Nord, Chartres-Nord, Bassin à Flot, ça on va encore batailler un temps, mais en tout cas je crois que c'est de ça dont les gens parlent encore.
Peut-être on fait un petit tour de table de conclusion avec chacun, chacune, ce que vous retenez, ce qui vous semble peut-être l'élément central ou important à signaler pour conclure et pour inspirer la rédaction du diagnostic et du rapport. Nicolas, ça en a ? Interlude.
Moi, j'ai envie de retenir le positif. Déjà, je remercie chacun et chacune pour cet échange et cette rencontre. Et en fait, moi, ça m'ouvre des petites lumières, là, de dire, tiens, il y a plein de choses qu'on pourrait pour imaginer ensemble, de construire ensemble, d'y associer les personnes qui vont à la Maison Elisabeth, qui vont, au centre social, on est déjà en connexion avec ce que tu dis, Yohann, sur le projet que tu imagines sur le Globe. Hein, j'y vois aussi des choses sur ce. Ouvrir le théâtre en dehors des spectacles, moi j'y vois déjà des jeux, enfin les gens font déjà des choses ensemble avec le Globe. Donc moi je suis plutôt ravi de ça, ça donne vraiment de belles perspectives. Voilà, donc moi j'ai envie d'être sur cette note positive et ces perspectives joyeuses.
Très bien, merci Yohann Navam du Globe.
Non, pas grand chose à ajouter. Moi aussi, merci d'ailleurs pour cette invitation. C'est important et on voit, quoi, c'est aussi en se rencontrant, en dialoguant, que les idées peuvent naître. Et c'est, faut continuer à croiser comme ça les acteurs, les actrices du champ culturel, du champ social et tout, et poursuivre le dialogue. Et c'est aussi, et du coup, ça permettra de passer la parole à Charlotte. L'endroit du collectif Bordeaux-Nord, quoi, qui met en relation les structures du champ artistique et les structures du champ social pour faire culture ensemble.
Charlotte, un petit mot de conclusion.
Je suis bien douée pour parler, mais alors, les conclusions, attends, je fais la
synthèse. Est-ce que toi tu retiens de central dans la discussion de ce matin, peut-être?
Je vois que malgré les difficultés, les contraintes, les sollicitations, etc., il y a toujours de nouvelles idées qui sont géniales, je trouve, pour l'avenir. Pour aussi le fait de continuer à parler, à discuter, à échanger les différents points de vue, les différentes activités, c'est très enrichissant. Et comme quoi le milieu associatif, les associations, les initiatives des personnes pour tout un tas, faire des choses ensemble, est inépuisable. Pour moi, ça serait ma conclusion et c'est bien heureux.
Voilà. Merci Charlotte, Fabrice, Escorn.
Ouais, ce que j'ai envie de retenir, c'est que il faut continuer à se battre contre cette idée que, enfin, contre le fait de mettre des gens dans des cases, des gens et des structures et des quartiers dans des cases, de les assigner à telle ou telle fonction ou telle définition. Et puis se battre aussi pour qu'on ne soit pas réduit qu'à de la consommation. Alors c'est vrai pour la culture évidemment, mais que voilà, on soit pas que dans une vision consumériste d'un quartier et de ce que ça apporte aux gens d'avoir des lieux où on peut consommer. Les gens, il faut qu'on les continue à les aider, à les inciter, à leur permettre de s'investir dans ce qu'ils font. Voilà ce que j'ai envie de dire ce matin.
Elisabeth, Angèle, pour terminer, voilà, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette discussion de ce matin ?
Eh bien, moi, j'étais très heureuse. J'ai appris plein de choses. Et je vois qu'on est nombreux, comme je dis souvent, à faire la même chose pour aller de l'avant, aussi bien dans la culture que dans la précarité et avec notre entourage. Alors, quand je dis notre entourage, eh bien, c'est voilà, tous ces nouveaux habitants qui nous arrivent sur Bordeaux, nos voisins. Je pense qu'il faut aller vers eux également, comme on va dans notre vie sociale, pour que cela fasse une chaîne et que tout le monde arrive à se tenir la main.
Merci beaucoup Elisabeth Angèle, donc de la maison d'Elisabeth, place Saint-Martial. Fabrice Escorn, directeur du centre social Bordeaux-Nord. Charlotte Couder du collectif Bordeaux-Nord, collectif de ressources culturelles. Johan Lavabre, directeur du Globe Théâtre. Et Nicolas Sornat, directeur de l'association Interlude et de l'espace de vie sociale Chantelude. Peut-être juste dire la suite, donc il y aura une deuxième discussion de ce type avec des habitants, habitantes du quartier dans une semaine et puis ce moment de restitution le 4 juin en soirée, ce sera annoncé d'ici là, et puis un second au mois de septembre, le 20 septembre.
Vous écoutez La Clé des Ondes sur le 90.10 FM et sur laclédesondes.fr. La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.
Amaro ejecutado, testifico el secreto, otro sueño trivillado. El montaje que apresó a la machi linconao. El canto con memoria abraza con dignidad esta historia desangrada de ambición y vil maldad. La corona y su iglesia, el ahora es consecuencia. Maldición de Malinche, hoy sufrimos tu herencia.
Firme de nuestros antiguos, en mis venas la sangre del indio reclama sin pena esperanza para un nuevo mañana.
Y que la niña la pinta la Santa María, trajeron verdades, hicieron heridas, sembraron con muerte, saquearon la vida, dictaron sus lenguas y culturas asesinas.
Y'a du sang sur les passeports et du sang sur les murs, du sang sur les drapeaux, sur les dorures et les fourrures, du sel sous les ongles, du gaz dans les narines, du charbon dans les poumons et des cadavres dans leurs usines. Nos âmes mutilées, nos corps ulcérés, nos cœurs abîmés à la frontière humiliée. Pas de papier, pas de respect, déshumanisé. Le slogan tu le connais, pas de justice, pas de paix.
Mi sangre hierve como el agua, no da tregua la invasión. Colonización, enfermedad, palpita, trajo peste, hambre, toda la miseria. Arma, droga,
en cadena. América Latina, Siria y Palestina son presagios del mañana. Oye, el negro y el rubio silencian la condena. Mientras África resiste nuestra pena ante emisarios del poder. Ya nos han robado todo, así que lucha con capucho sin capucha.
Sin color ni raza, ni bandera, pa' donde droga, sangre somos.
Ya du sang sur les passeports, sur les drapeaux et sur les murs.
Conexión de Dané de la Terre, Lille, Iquique, Valparaíso, escúchalo.
Obrero campesino, levántate, compañero palestino, emancípate. Somos la sangre que pinta tu bandera, somos la rabia que hace que rompa la cadena. Quítate la pena, sacude el temor, con lo colonizador al ritmo del tambor. Baila esta cumbia, arriba de tu tumba, macumba, quítate la pena y el temor.
Avec mes copains russes, мы слушаем La Clé des Ondes 90.10 в Бордо.
Hey, yes woman, pero se me, por saber, no me estás sentiendo, ay yo.
Crec que s'està tallant, eh?
Es deixen enxutent.
Això?
No, no, no.
Ni idea.
Estem en altre pla.